Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Luxologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Saveria Mandela, journaliste de mode et doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Bonjour Saveria.
Bonjour Aurore.
Tu rédiges actuellement une thèse de doctorat qui s'intitule « Le langage de la mode, principe de la temporalité socio-historique de mode à travers la réception dans la langue ». Un titre qui peut paraître assez complexe de prime abord, thèse dirigée par Marion Carrel, on reviendra dessus. Mais peux-tu dans un premier temps te présenter, nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivée à écrire pour les plus grands magazines de mode tels que GQ, Harper's Bazaar ou encore Madame Figaro ?
Moi, j'ai pas l'impression d'être arrivée quelque part. Okay. Mais en tout cas, je pense que ça fait longtemps que je travaille.
D'accord.
J'ai commencé à 20 ans chez Hermès.
Okay.
En stage, donc c'est-à-dire qu'à partir de ma troisième année de licence universitaire, j'étais en études à distance.
D'accord.
Et comme ça, je pouvais travailler en journée. Donc j'étais assistante attachée de presse à la mode femme chez Hermès le jour et étudiante en sciences du langage et anthropologie des médias la nuit.
D'accord.
Et le week-end.
Un rythme intense.
Ouais, assez intense. Et après, pareil, en fait, ça a continué chez Chanel. J'ai fait un passage chez Carla Auto, mais là, c'était plus des stages. Après, c'était des contrats. Je suis retournée chez Hermès à la direction de la com, mm-hmm. et le tout en continuant mes études. Et je crois que depuis, je n'ai jamais arrêté de travailler 7 jours sur 7, en fait.
D'accord.
Mais je crois aussi que dans la mode, il faut commencer tôt, mm-hmm. parce que ça prend du temps d'observer, puis d'apprendre, et puis d'apprendre en observant, puis en faisant, en assistant au début. Et après, arrivé la thèse, et du coup, je suis partie de chez Hermès. En plus, moi, je voulais écrire depuis le début. J'avais pris ces
D'accord.
opportunités-là qui m'ont aidée, je pense, à très bien comprendre le milieu. Et puis, j'avais une partie de mon master qui était très axée ethno.
OK.
Donc, ça m'a servi, clairement, pour comprendre le milieu dans lequel je voulais évoluer. Mais je voulais écrire. Du coup, j'ai quitté Hermès. J'ai commencé ma thèse. J'ai eu un financement de thèse, une bourse qui s'est terminée cette année.
D'accord.
Et puis, j'ai commencé à démarcher des médias. Et là aussi, ça a pris du temps.
Très bien. Alors, tu étudies la mode sous le prisme du langage et plus précisément de l'anthropolinguistique, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous expliquer ce que c'est, en quoi consiste plus précisément ta thèse et quel est l'objet de tes recherches afin d'aider nos auditeurs à mieux comprendre sous quel prisme tu analyses la mode, justement ?
Alors, par exemple, le titre, disons qu'il est évolutif. J'ai mis ça parce que ça fait plein de mots-clés
ouais.
sur Hypothèse, le site qui recense toutes les thèses. Je ne suis pas sûre que le titre final soit celui-là et j'espère
D'accord.
que si un jour elle sort en livre, ce sera un titre un petit peu plus sexy. Mais en gros, l'anthropolinguistique, ou ce qu'on appelle aussi la philosophie du langage, c'est de réfléchir à une dimension plutôt méta du langage, ce que je faisais pas avant jusqu'à la fin de mon master 2,
D'accord.
où là j'étais plutôt en sociolinguistique, c'est-à-dire le rapport entre société et langage, l'analyse de discours. Je reviens maintenant après 4 ans de recherche de thèse à de l'analyse de discours. J'ai quand même fait un énorme détour du fait aussi de ma directrice de thèse Marion
ouais.
Carrel, qui est une normalienne, docteur en mathématiques physiques.
D'accord.
Et linguiste, qui a travaillé avec le philosophe Oswald Ducrot. J'ai quand même fait un énorme détour donc par la linguistique. Et en fait, moi, le courant de pensée dans lequel je m'inscris par obligation, parce qu'on okay. est bien obligé de prendre des points de départ en fonction de nos tuteurs et chercheurs qui nous entourent, c'est de la sémantique, et plus particulièrement de la sémantique argumentative. Et en gros, c'est de dire que le sens d'un texte, mm-hmm. que tous les textes sont construits sur un schéma d'argumentation qui pour Ducrot, le philosophe, était raccroché un petit peu aux méthodes du genre théâtral.
D'accord.
Et que tout serait argumentation et qu'en même temps, le sens se retrouverait dans tous le sens d'un texte pourrait se résumer à quelques mots. Et à l'inverse, que la sémantique ne peut pas expliquer l'intégralité de la vie sociale. Qu'à un moment, le texte a un impact sur le monde qui sera limité mm-hmm. par rapport à d'autres formes d'interaction sociale.
Dans la description de ta thèse, tu dis qu'elle porte sur l'étude de la mode immatérielle à travers ses discours médiatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est décrit ensuite, mais ce que je trouve intéressant ici, à travers ce court passage, c'est la notion de mode immatérielle. Qu'est-ce que cette mode immatérielle, celle que l'on ne voit pas matériellement, donc, dans la vraie vie et qui n'existe qu'à travers le discours médiatique, ses images et ses représentations ?
Alors, je pense que le terme immatériel est à relativiser parce que, effectivement, je ne travaille pas sur le vêtement. Je ne fais pas une analyse du vêtement, du plissé, comme, comme certains doctorants et maintenant philosophes, je pense à Marie Chilleux, ont pu le faire. Moi, je travaille vraiment sur la dimension des discours de mode et je me concentre sur les textes de la presse mode française, surtout le XXe siècle,
d'accord,
surtout sur le Elle, le Vogue et le Marie Claire,
okay,
depuis leur création. Donc, Vogue, pour la France, pour l'édition française, c'est 1920. Pour le Marie Claire, c'est 1937. Et pour le Elle, c'est 1945.
Okay.
Et mon corpus comprend à peu près tous les numéros de ces trois magazines.
Okay.
Et à partir de là, je vois comment les discours ont évolué en fonction d'événements historiques qui ont pu avoir lieu, soit dans le secteur, mm-hmm, la mode, soit en dehors du secteur. Par exemple, mai 68, à quel point, comment la mode a traité mai 68, comment en fait la mode interagit
avec les événements sociaux, etc. Okay. Et pourquoi ces trois-là et pas l'officiel, par exemple ?
Alors, après, il y a aussi des considérations pratiques de recherche.
Archives,
Ouais, déjà archives. Le premier auquel j'ai eu accès intégralement, c'était Vogue.
Okay.
Et puis, c'est un média qui m'intéresse parce que c'est un média ancien, tout comme le Elle ou le Harper's Bazaar. Le problème du Harper's Bazaar, c'est qu'il n'y avait pas d'archives françaises. Et quand on fait de la linguistique, quand on a la prétention de faire de la linguistique et de la philosophie du langage, le but est quand même de ne pas travailler que sur des textes traduits. Donc, c'était un problème aussi de n'étudier que Vogue, parce que Vogue, au départ, a été créé en traduction de l'édition américaine. Du coup, j'ai voulu y ajouter le Marie Claire et puis voilà quoi.
D'accord.
Ça se fait, voilà, c'est des techniques un petit peu pour donner du sens.
Ça marche. Donc, quand tu parles de mode, à un moment, tu parles dans une de tes interviews de mode matériel, semi-matériel et de mode image. À quoi cela se rapporte-t-il ? Peux-tu nous les expliquer et donner quelques exemples éventuellement ?
La mode image, c'est clairement ce qu'on appelle, c'est plus un terme professionnel, un terme générique. Toutes les photos, tous les éditos, tous les shootings, tout ce qu'on voit passer sur Instagram, auquel j'ajoute évidemment la réception numérique de certains événements. Kim Kardashian et son look sur un tapis rouge, quand on le voit nous sur les réseaux sociaux, on est encore dans de la mode image. C'est tout ce que la marque va faire pour améliorer son image à travers vraiment des images.
Okay.
Mode matériel, c'est le produit,
ouais,
tout ce qui va relever du produit. Et la mode semi-matérielle, c'est cette jonction entre les deux. Donc, elle est dure à saisir.
Okay.
Ça va être à la fois dans le discours, mmh, ça peut être dans les échanges oraux. Mmh. Alors, celui qu'on a ensemble, là, toi et moi, il est enregistré, mais
oui,
ça peut aussi relever de temps de brainstorming au, mmh, sein d'équipe. C'est aussi ce qu'on réceptionne, mmh, et comment on le réceptionne. Voilà, c'est le mélange.
Ok. Une présentation presse, par exemple ?
Oui, par exemple. Oui, okay, oui.
On a parlé de philosophie du langage, du coup, comment on l'applique à la mode, justement ? Comment on applique à la mode tout ce concept ?
En fait, il y a plusieurs courants de pensée en philosophie du langage. Moi, en sémantique, ce que je fais, c'est que je... Enfin, en sémantique argumentative, je prends des textes.
D'accord.
J'opère un petit travail linguistique qui est très proche de calcul mathématique, mais avec les mots du texte. Et... Ensuite...
Donc là, on pense à Roland Barthes, système de la mode, par exemple.
Ouais, voilà, ben, on évite.
Ok.
J'évite sincèrement système de la mode, c'est un livre qui me dépasse un peu, mais tout comme le travail de Roland Barthes, ou même sur l'analyse des images.
Ouais, pourquoi ?
Ben parce que je pense qu'il a posé des bases.
Ok.
Sans méthode applicable à ses héritiers. Il y a ma directrice de thèse un jour m'a dit un truc qui m'a vraiment décomplexée avec système de la mode parce qu'en fait je lui disais bon ok j'avoue je comprends pas
rien.
De A à Z et je comprends pas les gens qui citent ce livre partout, franchement j'ai retenu quelques idées mais la méthode elle me dépasse. Et ma directrice de thèse m'a dit Roland Barthes a trop écrit pour que tout soit bon.
Ok.
Et je pense que système de la mode, quand bien même c'est un truc qui l'a intéressé, n'est pas une référence. En sémantique, en tout cas, il peut l'être en sémiologie, mais moi, je ne fais pas de la sémio, ouais, à outrance, un peu de sémio visuel, mais je ne fais, d'accord, pas que de la sémio. Donc, pas forcément Roland Barthes. Mythologie de Barthes,
oui,
est plus intéressant pour la mode, et bien plus simple, et bien plus cohérent,
bien
avec le monde,
oui,
dans lequel on vit encore,
oui,
aujourd'hui.
Totalement.
Mm-hmm. Donc, du coup, comment on fait ? Très honnêtement, je brode, je fais un truc qui n'existe pas trop en France. Je pense que c'est des fashion,
okay,
studies, donc je prends à de la socio, je prends à de la philo, je prends à de la linguistique. Et j'essaie de mélanger tout ça pour obtenir un résultat inédit dans le sens où je m'inscris pas, j'ai l'impression, dans une lignée de choses déjà faites, surtout dans la recherche en France.
D'accord, génial. Du coup, en sémantique, tu n'as pas de référence, on va dire, personnelle pour le moment, puisque tu t'en crées une, finalement.
Ah, en sémantique sur la mode, oui. Non, en plus sur des textes de presse mode, pas du tout. Oui. Après, en sémantique globale,
Oui. Alors, maintenant que nous avons parlé de cette partie un peu plus théorique, de mise en contexte, ça a toujours été un rêve pour toi de travailler dans la mode ?
Ouais.
C'est vrai.
J'aimerais bien répondre à autre chose et dire que non, que c'est venu comme ça, mais on ne va pas mentir, oui.
Pourquoi avoir choisi le langage plutôt que la création artistique ou le marketing, par exemple ? Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette discipline ?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le langage. Je trouve que tout ce qui est philosophie du langage, linguistique, littérature, c'est passionnant.
D'accord.
Sociopoésie, sociolittérature. Mmh. Mais en fait, j'ai toujours voulu écrire. Enfin, j'adore écrire et lire et je ne voulais pas faire des études de littérature parce que je sentais bien que je m'éloignais de la mode et je me disais, ah tiens, science du langage. En fait, c'était de continuer à pouvoir étudier le langage et en même temps, en ayant des cours d'ethno, d'infocom.
D'accord.
Voilà, et ça m'amenait vers ça. Mais oui, j'ai toujours autant voulu travailler dans la mode que ce que j'ai toujours autant voulu être journaliste de mode, en tout cas écrire.
Ok. Et pourquoi la mode fait-elle tant rêver selon toi ?
C'est rigolo, c'est difficile comme question parce que je pense que je vais en donner une réponse tellement personnelle et en même temps tellement biaisée par mon travail maintenant et par mes recherches doctorales.
Oui, c'est ce qui est intéressant justement.
Ouais. Je ne pense pas pouvoir donner une réponse naïve. Disons que d'un point de vue un peu scientifique, je pense que la mode fait rêver parce qu'elle entretient un rapport aux coulisses, aux secrets et au glamour qui est aussi puissant que dans le cinéma,
okay.
Mais qui paraît plus accessible parce que les marques communiquent non-stop et aussi parce qu'il y a un rapport aux vêtements que tout le monde connaît. Donc, il y a cette espèce de jeu entre scène et coulisses, cette tension que tout le monde a envie de ressentir et à laquelle tout le monde a l'impression d'accéder par le vêtement. Okay. On le sait, c'est comme ça que fonctionnent les marques de luxe. Quand on s'achète un sac Vuitton, on s'achète une part de l'histoire de Vuitton, de l'aura
bien
de
sûr.
Vuitton.
Oui.
Donc, je pense que c'est pour ça que la mode attire autant. Et puis la mode, quand on est professionnel de mode, je crois que je dois cette prise de conscience à Nadège Vanet, la directrice D'accord. artistique de la mode femme chez Hermès,
oui.
avec qui on en a parlé pendant une interview. En fait, je crois que la mode, quand on travaille pour elle, fait rêver aussi parce qu'elle a une capacité à nous extraire du quotidien, d'une forme de dureté du quotidien. On vit des expériences que dans d'autres milieux professionnels, un employé ne vit pas.
Bien sûr. Il n'y a pas une part de désenchantement parfois quand on voit les coulisses ? Est-ce que ce n'est pas le risque ?
Alors, moi, je voulais vraiment travailler. Je pense okay. qu'il y a un désenchantement pour certaines personnes qui...
Qui le fantasme peut-être ?
Alors, qui le fantasme ou qui en tout cas fantasme la notoriété.
Mm.
Que la mode donne l'impression de délivrer parfois très facilement. Et effectivement, si on veut devenir une star... Il doit y avoir des moments de désillusion quand on se rend compte qu'en fait la mode peut produire des stars tous les 6 mois, ouais. que de toute façon tout fonctionne en saison et en tendance, même les gens. Donc non, moi j'ai pas eu de désenchantement, je voulais vraiment travailler.
Ok, grande différence.
Ouais.
Alors au moment où nous nous parlons, j'ai dévoilé la semaine dernière un épisode dédié à l'histoire de la Fashion Week et justement nous nous voyons après une belle série entre les Fashion Week de Londres, Milan, New York et Paris. Pour le prêt-à-porter homme et la haute couture, ainsi que la femme qui a déjà débuté dans quelques-unes des villes précédemment citées. Paris donc, qui commencera la semaine prochaine, le lundi 26 février, pour les collections femmes automne-hiver 2024-2025. On le voit, le rythme imposé aux maisons aujourd'hui, rythme finalement qu'elles acceptent et auquel elles contribuent malgré quelques voix dissonantes. Premièrement, est-il soutenable ce rythme du point de vue de la création ? Et deuxièmement, qu'observes-tu en réaction à cela en termes de tendance dans une époque assez particulière où on sent que les choses sont en train de bouger sans pour autant savoir vers quoi elles se dirigent ?
Je ne sais pas s'il est soutenable. Oui et non. Parce qu'en fait, il est soutenable dans le sens où les marques qui drainent le marché, les maisons, les groupes, auront toujours le budget pour continuer à ce rythme-là et toujours aussi le pouvoir qui permet de certaines pressions sans doute pour maintenir ce rythme si elles le désirent. Créativement, je ne peux pas parler à la place des directeurs artistiques même si on a lu beaucoup de témoignages disant que pour certains c'était difficile. Après, on a aussi lu d'autres témoignages, par exemple d'Alessandro Michele que j'adore, qui pendant le confinement dit « Oh là là, il faut absolument que ça s'arrête, c'est trop intensif » et qui n'a pas du tout été dérangé pour repartir de plus belle après le confinement.
Donc,
voilà.
Après, d'un point de vue extérieur, ce qu'on voit en termes de création, est-ce que c'est pas redondant? Est-ce que il n'y a pas une sorte d'essoufflement?
Si. Et puis, moi, j'avoue que...
D'uniformisation des tendances, un peu.
Ouais. Ça, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'en fait, si vraiment on veut s'attacher au système de tendance, qui en fait permet de produire et de surproduire et de reproduire, c'est pas plus mal aussi qu'il y ait des uniformisations pour qu'on retrouve justement le principe des tendances. Parce que là, ce qu'on observe quand même depuis, disons, 3 saisons, c'est qu'il y a tellement de tout qu'il n'y a pas de tendance. Je vois bien après comment fonctionne la presse, comment font les journalistes. C'est très lié à la presse anglo-saxonne, mais... ils vont prendre en fait ce qui leur plaît, ce qu'ils ont repéré.
D'accord.
Et dire, ah bah tiens, c'est la tendance des motifs floraux, des micro-shorts et de l'esthétique prépi. Mais je pourrais trouver 10 autres tendances qui n'ont rien à voir. On pourrait reproduire cet exercice à l'infini parce qu'il y a tout. Donc l'uniformisation n'est pas si mal.
D'accord. Y a-t-il des choses, des discours marquants que tu aurais remarqué dernièrement en termes de création? Je pense à un de tes articles sur Marc Jacobs, par exemple.
Ah oui, je pensais sur des jeunes créateurs.
Je parle en général.
Ouais, le défilé de Marc Jacobs qui a eu lieu juste avant la Fashion Week de New York parce qu'il s'est désolidarisé du calendrier, ce que je trouve vraiment dommage parce qu'il n'y a plus du coup de grosses têtes d'affiches new-yorkaises à la Fashion Week de New York, mais bon. Ouais, le défilé de Marc Jacobs m'a marqué parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était une lecture du lien entre le vêtement, l'histoire des femmes, des injonctions sexistes et le féminisme,
oui,
qui était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. On retrouvait jusqu'à de l'anthropologie avec notamment la notion que la femme doit toujours être disponible et que ça passe par le vêtement, par les ouvertures du vêtement. Et on voyait donc des robes grandes ouvertes, béantes, mais en même temps mini. Les mannequins étaient traités comme des, en termes de make-up, comme des poupées. Ouais.
C'est okay. Difficile. Trop bien. Quel rapport entretenons-nous aujourd'hui aux vêtements, selon toi, à la mode et aux professionnels de la mode, d'ailleurs, souvent surnommés les fashion, par exemple? Quel rapport on a à tout ça qui est... Ce dont on parlait un peu tout à l'heure, du rêve, de la fascination.
Je sais pas. J'aurais du mal à dire. Je pense qu'on se doute pas qu'on est quand même très nombreux et qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y en a certains qui occupent un petit peu plus... forme de visibilité ou de scène médiatique. Il faut quand même, ça reste toujours des notoriétés confidentielles propres, ouais, au secteur de la mode. Donc je sais même pas si les gens, d'un point de vue extérieur, se rendent vraiment compte de tous les métiers que peuvent contenir la mode. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que beaucoup de gens sont déçus quand ils arrivent, par exemple, en école de couture ou de stylisme modélisme. C'est qu'en fait, la mode, il y a plein d'autres métiers derrière, mais c'est un peu, il faut le voir pour le croire, et la mode n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est le paradoxe.
Est-ce que c'est pas lié à l'image qui est devenue quasi omniprésente, qui renvoie cette idée un peu
Oui, l'image et puis bon, un peu, c'est Emmanuel Ecoccia qui disait un peu le siècle du moi aussi, quoi, qui reprenait cette formule. Aujourd'hui, on peut aussi se dire que la mode est un tremplin pour autre chose. Je le vois chez les jeunes célébrités en début de carrière. On a l'impression qu'il faut vite choper un contrat de mode pour être visible à des défilés, donner l'impression qu'on a un contrat sur 10 ans à je ne sais pas combien de millions d'euros, et ensuite finalement intéresser aussi d'autres univers culturels.
Ok, c'est une porte d'entrée.
Oui, c'est-à-dire que l'image de mode se retourne un peu contre la mode elle-même, ou parfois on n'y vient pas pour les bonnes raisons. En tout cas,
on
n'y
vient
raisons
pas pour le vêtement, mais pour...
Exactement.
Du coup, j'allais te demander, la mode est-elle si superficielle, si futile que cela? Est-ce une volonté de le paraître ou est-ce subi, alors que l'on sait qu'elle est partout, puisque nous avons tous besoin de nous vêtir? N'est-ce pas en partie en raison de ce caractère qui peut paraître parfois excessif, théâtralisé, voire outrancier?
Oui. Mais après, beaucoup de créatifs ont des comportements en société bizarres, mais du fait de soit de manière excentrique ou renfermée, je pense plus de gènes ou de modes de pensée qui sont différents. Je me suis rendu compte, par exemple, je croyais être à l'aise en société, et en fait, je me suis rendu compte que je ne le suis pas, que je dis Pourquoi toujours des trucs à côté de la plaque, qu'après je repense et je me dis « Oh non, j'aurais jamais dû répondre ça », alors que la personne a sans doute oublié cette interaction de 30 secondes. Et j'ai l'impression que la mode crée un espèce de cocon où on peut soit passer pour quelqu'un de snob en se taisant, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'est peut-être pas à l'aise, soit
passer pour quelqu'un d'original en étant excentrique, alors que peut-être que c'est une manière d'exister et de compenser des choses. Enfin, disons que travailler avec le vêtement aide à communiquer autrement. Et c'est vrai que c'est un savoir, c'est un mélange entre skills, savoir-faire, savoir-être, ouais, que pas tout le monde maîtrise. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, ça me crée des barrières, ça aide.
Communiquer autrement, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire en dire plus sur soi sans parler.
Dans une interview que tu as donnée à la Fédération de la mode et de la haute couture, la FHCM, tu parles de déclencheurs émotionnels, de romantisme de la mode. Ces caractéristiques sont-elles devenues rares, mais surtout en quoi sont-elles essentielles selon toi ? Y a-t-il des créateurs qui le font bien et que tu aimerais mentionner ?
Oui. Un défilé de Olivier Rousteing, Balmain, après le Covid ou pendant, je trouve que c'était assez impressionnant sa capacité à susciter une émotion qui était presque plus en lien, enfin qui était évidemment en lien avec l'actualité sociale, c'est-à-dire qu'une partie des invités était à travers des écrans parce qu'ils n'avaient pas pu se déplacer du fait des restrictions Covid. Ouais. Et ça, c'était à la fois un décor hyper triste et en même temps très actuel et en même temps qui était un pansement à tout ce qui nous était impossible de faire, quoi, qui était un système D. Et ça, par exemple, je trouvais que c'était émouvant. Mais de manière plus créative, il y a le romantisme esthétique à la Simone Rocha. Il y a des démarches. Par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Florence Tétier chez Jean-Paul Gaultier, d'inviter un créateur par saison pour faire la collection haute couture. Ouais. Et puis, là, le show, je pense... Que je n'ai pas vu, malheureusement, en vrai, auquel je n'ai pas assisté, mais qui est sans doute l'un des plus émouvants de la période, c'est le dernier...
Margiela.
Oui, Margiela par Galliano, ouais, mais qui est émouvant aussi pour plein de raisons, parce qu'il était proche d'un niveau de... C'était pas beau, c'était presque sublime. Mm. C'était très laid, très sale, et en même temps très beau. Ça, je pense que ça n'a pas été assez dit. Tout le monde a dit « Oh là là, c'est magnifique », mais les gens n'ont pas compris pourquoi c'était magnifique, ouais, parce que c'était très laid. Enfin, ouais, c'était quand même inspiré des bas-fonds parisiens. C'est ça Paris, ça a été ça Paris.
Morbide.
Oui, ouais, voilà. Et aussi, d'utiliser tout cet artisanat de la couture pour finalement faire des poils pubiens, ce décalage de... C'était outrancé à l'extrême, mais en même temps, ça n'était pas du tout, parce que c'était juste de la haute couture et... Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper émouvant, même à travers un écran. Quand même, je tiens à dire que ça a été possible parce qu'il y a eu 2 ans de travail sur le show. Et je pense que retrouver du temps long, moi, c'est ce que la thèse m'a appris avant tout, c'est qu'il faut réfléchir avant de faire.
Bien sûr. Et justement, d'où les cadences de collection.
Oui.
Qui empêchent cette réflexion de 2 ans, par exemple.
Oui. Après, il y a tellement de créatifs et de gens qui sont missionnés sur les collections... qu'il y en a dans le lot, qui ont eu des temps de réflexion avant d'en arriver à travailler sur cette collection. Bien et sûr. Puis, ça devient un métier sur lequel il faut prendre des rythmes. Mais oui, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à de l'émotion tous les 4 mois. Clairement pas. Même en allant à l'autre bout du monde, c'est plus possible.
Tu parles également de... Alors, l'article était en anglais. « The mainstream debate that fashion provokes on social networks ». Donc, en français, ce serait les débats stériles, un peu, on va dire, que la mode provoque sur les réseaux sociaux. On le voit aujourd'hui, il est possible d'avoir un discours approfondi sur la mode et ton travail en est la preuve. La mode qui n'est en fait rien d'autre qu'un discours sur l'état de notre société. L'un de ses reflets les plus parlants, je pense, bien que son mode d'expression soit surtout visuel. Qu'est-ce qui explique, selon toi, la superficialité de ces débats, le fait qu'ils soient si souvent moqués, tournés en dérision, parfois jusqu'au ridicule ?
Ben, je pense que les gens ont absolument le droit d'avoir un avis sur la mode. Mmh. Enfin, c'est quand même un truc haptique, parce que la mode, tout le monde la pratique, tout le monde s'habille. Et tous les jours, et choisit ses vêtements. Mais en fait, c'est peut-être le manque d'intérêt. On n'est pas obligé de s'y connaître en mode, mais je pense qu'il faut se rendre compte du pouvoir démocratique qu'on se confère si on s'y intéresse un petit peu plus. Regardez 2 secondes les chiffres et voir que si on est à nouveau fan du dernier sac Gucci, c'est parce qu'en fait, Gucci a des chiffres en baisse et que du coup, ils sont en train de pousser les sacs. C'est peut-être aussi reprendre, au sens littéral, le pouvoir sur son pouvoir d'achat. Et les gens n'ont pas envie de faire cet effort, les gens ont envie de se laisser guider, n'ont pas le temps ou l'envie de s'intéresser en profondeur au secteur de la mode. Ouais. Et bah, du coup, forcément, c'est stérile, ça va être du c'est beau ou c'est moche, quoi.
Est-ce que c'est pas un peu le rôle des journalistes ou des marques de
pallier
à ça ?
Mais je pense que tous les gens de la mode font tout ce qu'ils peuvent.
Peut-être plus le marketing là, qui intervient.
Oui, voilà. Après, il faut voir comment la marque veut communiquer. Mais pensons à Diesel qui a ouvert son défilé à 800 personnes à Milan, à Marine Serre qui l'ouvre à 500 personnes à chaque fois à Paris. Il suffit juste de s'inscrire gratuitement sur des sites. La mode fait ce qu'elle peut. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que ça reste un secteur professionnel, entre guillemets, comme un autre.
Bien sûr. Et un business qui a besoin de vivre.
Oui, et puis surtout que les Fashion Weeks sont des temps professionnels de B2B qui sont retransmis aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux sociaux, à travers le monde. Ça, on ne pourrait pas faire venir tout le monde. Personne n'a envie d'aller au salon de l'optique s'il n'est pas dans le milieu. Ben voilà.
Comment les réseaux sociaux ont transformé le langage et le discours des maisons de luxe ?
Je pense qu'il faudrait faire du cas par cas. Par exemple, Balenciaga, à un moment, était quasiment la seule sur Twitter. Ça, j'appréciais énormément parce qu'en fait, Twitter était à cette époque-là le seul réseau social sur lequel on pouvait générer des interactions, où l'information est quand même beaucoup moins balancée et imposée que via Instagram, où c'est seulement de l'image éventuellement commentée ou likée. Donc, il y a des marques qui se sont ouvertes et d'autres, au contraire, qui maintiennent très, très, très fort leur distance. Ce que je comprends aussi, parce qu'une marque de luxe n'a pas à prendre la parole tout le temps, de toutes les manières. Il y a aussi les médias pour faire ça, et c'est pas pour rien qu'il y a un système d'annonceurs. C'est que du coup, ils savent que le relais sera fait auprès de la presse. Donc, interviennent les influenceurs qui font ce trait d'union. Voilà, ce que ça a changé d'abord, c'est que ça a créé un métier.
Ils sont souvent critiqués, les influenceurs. Toi, comment tu les vois ?
Bah moi, je suis copine avec plein d'entre eux et je les vois taffer. c'est un job, quoi. Il faut se rendre compte de... Pas tout le monde a le talent pour prendre des photos qui seront désirables, créer du contenu tous les jours qui soit désirable et voir ça comme un travail et pas juste comme une charge mentale improbable dans un monde immatériel.
D'influencer une communauté réellement.
Voilà. Après, je me demande parfois quelles sont les limites de l'influence dans une société où, ça y est, ça fait bien 10 ans, on a eu les blogueuses avant, tout le monde est au courant de comment ça fonctionne, qu'il y a des partenariats derrière. Et en fait, est-ce qu'on se sent influencé par quelqu'un qui nous dit que c'est beau parce qu'il a été payé pour ? C'est plus des goûts personnels. On est loin de l'époque de la blogueuse qui faisait ça sur son temps libre. Je me demande comment ils vont pouvoir se reconvertir, se transformer et garder ce statut d'influenceur. Parce qu'ils n'ont pas un statut de prescripteur. On ne suit pas, je pense, un influenceur pour savoir de quoi sera fait demain, pour avoir des insights sur le futur. On vient voir un influenceur pour savoir ce qui se fait maintenant. Voilà, peut-être que... je sais pas.
Alors, tu évoques justement dans un épisode du podcast Dig It, sorti en janvier 2022. J'imagine que ton analyse a évolué depuis, tu le mentionnes dans l'épisode. Mais tu dis qu'il y a désormais parfois une confusion entre marques et médias, que celles-ci finissent par perdre de vue leur premier objectif qui est le vêtement. Et Mucha Prada l'a dit justement à l'issue du dernier défilé printemps-été 2024 de Milan. J'en ai assez de parler d'idées, revenons à l'essentiel et parlons de vêtements.
Ah oui, bah, je serais toujours d'accord avec Mucha. Je suis ravie de savoir que...
qu'elle partage ton point de vue.
Qu'à 4 ans d'écart, on a dit la même chose. Ouais, bah... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Bottega Veneta, à un moment, a sorti son magazine. Dior a le Dior Mag. Alors ça, c'est pas pareil. C'est un peu plus niche. C'est pour renseigner le milieu sur ce qui se passe avec les VIP de la maison. Mais je pense qu'on peut pas tout faire. À échelle individuelle, à échelle collective et donc à échelle d'entreprise. Et qu'au bout d'un moment... Si on finance des médias via des pages pub pour ensuite avoir de bonnes interactions avec eux dans l'année, il n'y a pas besoin de prendre en charge les idées, les grandes prises de parole. En fait, on demande aux marques de faire des vêtements et de créer du sens à partir de collections, pas de créer du sens dans un enrobage. L'enrobage, c'est ne sera jamais maîtrisable par une marque seule, puisque l'enrobage, en fait, c'est tout le système de la mode et toutes ses interconnexions. Donc, oui, j'avoue que... Les marques sont obligées de communiquer en leur nom propre, mais je trouve très intelligent quand elles vont plutôt soutenir, que ce soit un média, un podcast, n'importe quoi, et se concentrer elles aussi sur le vêtement en tant que discours.
Ne pas s'éparpiller.
Ah, s'éparpiller, si, parce que parfois ça fait sens. Là, Kering, qui rachète une société d'agents, un truc comme ça à Hollywood, ça fait totalement sens, puisque Saint-Laurent, qui fait partie du groupe Kering, vient de se lancer dans la prod, et au moins, voilà, ça va faire un truc à 360. Et de toute façon, les vêtements sont absolument partout. Et encore plus dans le cinéma, dans la culture. Mais c'est juste ne pas se considérer comme un média, je pense.
Et c'est paradoxal parce que les marques essayent d'être des médias, mais peinent à se faire entendre sur certains sujets, tels que par exemple le développement durable, contrairement à d'autres médias. Dès qu'elles prennent la parole, elles sont décrédibilisées. Est-ce que c'est parce qu'il y a des enjeux financiers derrière ? Comment tu le vois ?
C'est parce qu'elles prennent la parole timidement. Parce que, oui, enfin, LVMH, par exemple, avec Stella McCartney, c'est très green, tout ça, mais à côté, il y a d'autres marques du groupe qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes et qui n'en sont pas là et qui ne peuvent pas en être là parce qu'on change, on se révolutionne pas en un jour quand on a des usines partout dans le monde, quand on a une chaîne de production tellement énorme qu'avant de rassembler tous les acteurs, enfin, ça rentrerait pas dans un stade. Voilà, je pense que les marques sont peu crues, mais ça dépasse la mode. Aujourd'hui, il y a un espèce de scepticisme sur l'écologie qui est vraiment ambiant et dont tout le monde pâtit aussi, je pense. On commence à être lassé des changements écologiques qui n'arrivent pas. En fait, on doit d'abord à la politique, mais de changements qui n'arrivent pas. Et puis aussi d'incompatibilité avec un mode de vie, un pouvoir d'achat qui baisse, un mode de vie qui est très contraignant et qui est encore très dépendant de plein d'objets polluants.
Même des idéologies différentes sur la manière de le mettre en œuvre. C'est assez complexe. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique qu'on n'en veut pas aux marques de ne pas faire plus aussi.
On peut passer aux tendances. Il y a une tendance dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui, selon moi, n'en est pas vraiment une. C'est le quiet luxury, puisque celui-ci a toujours existé, notamment par les classes sociales les plus aisées, les plus élevées. Ce qui a permis, je pense, à contrario, de mettre en évidence le loud luxury. Qu'est-ce que cela révèle, selon toi, l'emploi et l'explosion de ce terme de quiet luxury ? Est-ce que c'est une façon d'appuyer justement le loud luxury, à l'inverse ?
Enfin, pour une fois, ça révèle quand même que la presse de mode... Encore une fois, plutôt anglo-saxonne, a encore de l'influence dans le milieu et au-delà. Parce que oui, c'est la presse anglo-saxonne de mode qui a posé ce terme et ensuite, ça a fait un effet boule de neige. Ça a séduit parce qu'au même moment, on avait des séries qui avaient des succès mondiaux comme Succession qui adoptaient cette esthétique. Et puis, le quiet luxury parle aussi de rapport de classe. Finalement, aujourd'hui, les clients du luxe, comme on se les imagine, les clients plus discrets qui, en fait, constituent le petit 1% aussi dont on ne parle pas et dont tu ne veux pas qu'on parle. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas une tendance.
Ça a toujours été présent pour moi.
Oui, oui. La preuve, les marques...
Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, on a vu trop de logos il y a eu une intensification un petit peu en termes de couleurs. Enfin, ça partait dans tous les sens. Est-ce qu'on n'a pas voulu se recentrer sur quelque chose de plus simple, de plus épuré, de revenir, tu vois hein.
Je pense que c'est une réaction à la logomania et tout ça.
Je pense, ouais, ça pourrait l'être.
Ouais, bah ça expliquerait qu'il y a encore des phases cycliques dans la mode. Oui.
Et une époque aussi un peu incertaine, un peu instable, où tout le monde se cherche finalement.
Là où c'est un peu une tendance, le quiet luxury, finalement, c'est que toutes les marques, effectivement, ont dit, c'est bon, là, côté logo, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant, il faut qu'on repasse à autre chose. Donc, on s'est retourné vers du minimalisme et du quiet luxury. Mais les vraies valeurs du quiet luxury ne sont pas respectées puisque les marques repassent à autre chose aujourd'hui. Alors que l'essence même du quiet luxury, c'est s'acheter un pull à 6000 euros et d'être attentif à la qualité et surtout d'avoir tellement toujours le même style sobre qu'on a moins besoin de se renouveler. Quand bien même on peut s'acheter 12 pulls à 6000 euros par mois, il y a vraiment cette idée-là de ne pas trop se renouveler dans l'esthétique et donc logiquement dans le vêtement, dans le produit. Et là, les marques ont abandonné ce quiet luxury et le discours qui allait avec. C'est en ça que ça devient une tendance, pour cette fois.
Toujours dans le podcast Digit dont on parlait tout à l'heure, tu parles de ce fameux ton presse-mode. Qu'est-ce que le ton presse-mode Qu'est-ce qu'il caractérise selon toi?
Alors, c'est Sega, c'est un podcast de GQ. Et c'est Sega qui, je pense, m'avait déjà posé la même question en insistant. Ça, c'est un peu les secrets de la thèse. Ça serait long à expliquer. Je ne sais pas, je sais même pas si je serais capable de l'expliquer à l'oral. D'accord. Pour l'instant, je suis capable de l'expliquer sur 20 pages. C'est en gros, le ton étant un terme technique en linguistique et via la théorie des blocs sémantiques, qui est une théorie de Marion Carrel, plutôt un outil. C'est en fait de voir qu'il y a des formules qui reviennent tout le temps.
D'accord.
Et qui sont incarnées par ce qu'on appelle le locuteur au sens sémantique, donc c'est-à-dire le personnage que le discours crée, mais qui n'est pas le journaliste dans la vraie vie, qui est vraiment un outil analytique de littérature, quoi. Voilà. Et donc, il y a des formules qui reviennent tout le temps et que finalement, je ne sais pas combien de temps on est après l'épisode de Digit, un ou deux ans après, je retrouve ce ton dans tous les médias et encore plus aujourd'hui qu'à l'époque.
Pourquoi ?
Je pense que ça s'explique par l'intensification des publications, des parutions avec le web.
Ouais.
Et que du coup, ce qui va relever de la formule se retrouve. Par exemple, avant, on avait un ton, le Elle avait un ton, le Marie-Claire aussi, le Vogue aussi, mais chaque magazine avait son ton.
D'accord.
Là, Parfois, je peux prendre un article. Alors là, j'étudie pas le très contemporain parce qu'en plus, je me sens trop liée et
oui,
en termes de terrain, ça va devenir trop compliqué pour moi si y a mes propres articles dans mon corpus ou ceux de mes potes. Donc, je me suis arrêtée aux années 2000. Mais disons que, un peu plus parce que j'ai mis un peu de web. Il est possible de ne même pas faire la différence entre deux médias sur certains sujets maintenant.
Et est-ce que c'est pas lié justement au fait que les mêmes journalistes travaillent pour les mêmes papiers ?
Alors, ça dépend de s'ils sont pigistes ou intégrés. Dans les années 2000-2010, il y avait encore pas mal d'intégration. Oui. Il y avait beaucoup moins de pigistes qu'aujourd'hui.
Et ça pose peut-être la question de la précarisation du métier de journaliste, du coup, qui est plus de pigistes.
Oui, oui, oui. Je ne sais même pas si je suis légitime pour parler de ça, mais en même temps, en France, il y a aussi il y a des médias de mode, évidemment, mais peut-être moins qu'aux US ou qu'en Angleterre. Il n'y a pas du tout la même place et légitimité. Il n'y a pas la même culture du média de mode aussi.
D'accord.
Donc, évidemment qu'il y a moins de besoins du côté des médias, du coup.
Peut-être moins de budget d'intégration aussi, vu que la presse souffre aussi quand même, surtout papier, je pense.
Totalement.
Oui. Quand même beaucoup ces derniers temps. Mm. Tu parles également de la mode comme d'une institution. Je trouve que c'est un terme qui est lourd de sens. Le journaliste et le rédacteur tentent de se plier à ses codes, à son jargon, afin d'en faire partie, tout en voulant s'en démarquer. Et tu dis qu'il y a une forme de passivité, tout en ayant ce besoin de reconnaissance. Ah oui. Et finalement, le contenu devient plus intéressant pour le lecteur.
Oui, on a toujours plusieurs niveaux de lecture. Mmh. Et je pense vraiment que, par exemple, si on veut travailler dans la mode, il faut absolument lire toute la presse. Moi, quand je donnais des cours, c'est ce que je conseillais à mes étudiants. Je pense qu'on ne peut pas comprendre sans effectuer en plus une double lecture sur les textes. Après, oui, en fait, c'est très compliqué parce que quand on travaille dans la mode, c'est un journalisme particulier. C'est un journalisme de presse culturelle. C'est-à-dire que la presse culturelle est financée par les institutions qu'elle chronique, qu'elle relate, qu'elle critique. À partir de là, si on veut rester dans le milieu, on est bien obligé de ne pas se fâcher avec les institutions pour continuer d'avoir des accès, d'autant qu'on sait que les accès mode sont encore plus compliqués à obtenir.
Tu évoques autre chose qui est important selon moi, c'est que la mode et les tendances ne participent pas à l'évolution de la langue. C'est très paradoxal pour un secteur considéré comme avant-gardiste et celui qui justement lance les tendances et certaines grandes évolutions.
Oui, je suis un peu moins rigide, je pense, sur ça maintenant.
Ok.
En tout cas, c'est plutôt la langue française qui n'est pas prescriptrice de termes de mode actuellement.
Ok.
La preuve, on en parlait juste avant avec Quiet Luxury, beaucoup de nos termes qui deviennent mainstream et grand public, qui sont très vite intégrés par le grand public, sont en fait des néologismes anglais.
Enfin,
par emprunt à l'anglais. Donc oui, je trouve que, sans doute parce que la culture médiatique est moins puissante, en tout cas dans la mode, en France que dans les pays anglo-saxons et anglophones, on est moins leader sur la tendance terminologique que les anglophones.
Ok, et là, la presse n'a-t-elle pas un rôle à jouer, justement à...
Mais la presse joue ce rôle. On en parle souvent avec des copines qui sont journalistes aussi. Moi, le nombre de fois où j'invente des mots dans les textes, où
ça passe. Ça travaille de fond, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, ça passe. Les mots font sens. Enfin, je m'invente pas une vie d'écrivaine dans les articles, mais j'invente des mots pour faire comprendre, parce que c'est plus simple parfois d'inventer que d'utiliser tout le vocabulaire existant. Et c'est pas spécialement repris aussi, parce que c'est plus niche, sans doute.
Ok. Sur France Inter, dans l'émission Zoom Zoom Zen, dans l'une des émissions de septembre consacrée à la Fashion Week, tu évoques les mannequins et notamment l'évolution des top modèles en disant que celles-ci sont passées de top à role model. Qu'est-ce qu'un role model ? Qui sont-elles ? Et sont-elles vraiment légitimes ? Quand un bon nombre d'entre elles sont ce que l'on appelle des nepo babies et qui sont très critiquées pour cela, ce qui vient parfois délégitimer leur discours.
Oui, j'avoue que j'adore cette formule de top modèle à role model. Je la mets où je peux, dans mes intertitres, partout. Je suis très fière de moi. Non, mais alors justement, les nepo babies ne sont pas des role models au sens où elles n'ont aucun parti pris, aucune prise de parole risquée. Elles reproduisent l'image très lisse de leur mère. Mmh. Après, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on a quand même, allez, disons, 15 femmes dans les années 90 qui sont devenues des stars grâce à la mode et qui sont plus célèbres que la mode et que les marques avec lesquelles elles ont travaillé, qui ont créé en fait des entreprises à partir de leur corps, au point de pouvoir les léguer comme de véritables dynasties à leurs filles. Ça, je trouve ça génial. Leurs filles je trouve qu'elles accueillent l'héritage au point même d'en reproduire, disons, le silence et la plastique de l'époque.
À avec côté une de ça, on a quand même.
Ouais, voilà. Mais à côté de ça, on a quand même des mannequins aujourd'hui qui ont pris la parole. Certaines qui ont lâché des agences. Ashley Graham vient de sortir un truc dans le Vogue fabuleux. Mais bon, encore une fois, c'est des mannequins, évidemment, mais c'est aussi des personnes minorisées.
OK.
Donc, ça va être. Donc, on a par exemple Salwa Raja qui a dénoncé le racisme. On a Sylvano Frère qui est un mannequin belge, je crois, ou franco-belge, plus size, et qui lui, en fait, dénonce l'absence totale de représentation de diversité des physiques dans la mode homme. Voilà, donc, voilà, les mannequins minorisés qui ont su accéder au métier, et pour qui c'est sans doute bien plus difficile, soit au début, soit encore actuellement, sont quand même devenus des rôles modèles.
Ok, et comment tu le définis, toi, un rôle modèle? Qu'est-ce qui est différent?
Je pense que c'est quelqu'un qui inspire, qui est capable de fédérer autour d'une cause, sans pour autant que ce soit une forme de militantisme à outrance ou premier degré, mais juste quelqu'un qui, ouais, qui inspire.
Qui prend la parole, qui n'est plus juste un cintre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Enfin, dans l'émission Canal Piu, présentée par Piu Piu, tu dis que les marques deviennent des hubs culturels, c'est-à-dire.
Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Curing, mais je crois que je disais qu'effectivement, il y a des marques dont la priorité n'est pas le vêtement, comme par exemple Louis Vuitton. Bien sûr, la marque crée des vêtements pour hommes et pour femmes et peut tout se permettre en termes de création de vêtements parce que le métier principal, c'est d'être maltier et d'être maroquinier. Et aujourd'hui, c'est en fait presque le job de Vuitton, c'est de vendre du rêve, quoi, qui fait rayonner toute la mode. Mais c'est un peu le job, donc... C'est des sortes de hubs et on a une superstar de la musique qui passe de producteur à directeur artistique et qui fait des shows qui sont plus gros que des concerts, mais en même temps c'est exactement ce que Louis Vuitton voulait. Et à côté, à la mode femme, on a Nicolas Ghesquière qui est fan de gaming et qui nous crée un univers comme si on a l'impression quand même à chaque fois qu'il va designer les vêtements d'un jeu vidéo plus que habiller les gens de la rue.
Ils ont fait des collabs en plus.
Totalement. Ça a été les premiers parce qu'il est fan de ça. Ouais, c'est des hubs culturels, on peut y trouver beaucoup de choses qui ne sont pas en lien avec le vêtement et on peut s'intéresser à la mode de plein de manières parce que certaines marques, en fait, ne sont pas là que pour le vêtement, pas là que pour la mode.
Il y a certaines marques qui le font mieux que d'autres. Enfin, on parlait de Vuitton, mais il y en a d'autres qui te marquent comme ça.
Ouais,
comme
ça. Celles qui ont du budget, mais oui, après, il y a des marques qui le font très bien avec moins de budget, comme par exemple Wells Bonheur, de Grace Wells Bonheur. Il n'y a pas une collection qu'elle lance sans qu'il n'y ait pas une expo à côté, sans qu'il n'y ait pas un référencement énorme. Je sais qu'elle répond souvent aux journalistes dans ses interviews, allez lire ce que j'ai fait autour de la collection. elle fait un travail d'archive qui est proche du travail de chercheur à chaque fois. Jonathan Anderson aussi, chez Loewe. Bien sûr qu'on peut aussi juste regarder et se dire, ah tiens, c'était joli, il y avait des chaussures grenouilles, c'est drôle. Ouais. Mais si on creuse, chez Loewe, à chaque fois, il y a des collabs avec des artistes. Et comme ça, on accède à plein de pans de la culture.
On voit par exemple, il y a Hermès qui a annoncé sortir une collection hors série, sans défilé, sans date de sortie fixe, composée uniquement de pièces rares et d'artisanat d'excellence. N'est-ce pas ce vers quoi plus de maisons devraient tendre, peut-être?
Je suis bien encardée sur cette collection, parce que j'ai écrit un article dessus pour le Madame Figaro.
D'accord.
Hermès peut faire du hors série parce que Hermès travaille avec des savoir-faire, avec des artisans et des savoir-faire qui justifie d'avoir des pièces d'exception comme ça. Et aussi, Hermès ne présente pas en haute couture. Donc, on est à mi-chemin entre la collection de haute couture qui n'existe pas telle quelle chez Hermès et quelque chose d'encore plus proche de l'électron libre, où c'est le même niveau, mais c'est plus portable. Ça n'a pas respecté certaines contraintes qui ne colleraient pas à l'esthétique Hermès aussi, peut-être, en termes de broderie et tout, qui sont imposées pour avoir les... qualificatif de haute couture. Oui, toutes les maisons devraient tendre à ça, mais ça exclurait quand même aussi beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour se payer ce type de pièces.
C'est vrai. Quelles sont les tendances que tu as observées dernièrement, celles qui t'ont marqué ou des créateurs que tu aurais envie de faire découvrir?
Alors, tendance, pas vraiment. J'avoue que le dernier show, Le Maire, m'a énormément marqué. Okay. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je suis... Parce que Le Maire, c'est toujours très beau, mais il y a un stylisme très pointu, très décideur. Mm-hmm. Et on peut ne pas toujours se projeter dans les collections en se disant « Ah oui, tiens, il faut le porter comme ça, et moi, je ne m'habille pas comme ça. » Là, cette collection, elle dépassait cette sensation tout le monde, enfin, dans la salle, j'étais à côté d'un ami à moi, Becca. Et Becca m'a dit, j'ai envie d'arrêter la journée et d'aller à la boutique Le Maire et de m'acheter tous les trucs. En fait, ça a suscité un désir, mais un désir de porter le vêtement. Pas un contentement d'avoir assisté à un défilé où c'était beau. Le spectaculaire passait par l'envie vraiment d'un coup de s'approprier le vestiaire Le Maire. Et ça, je crois que ça ne me l'avait jamais fait.
Ok, tu l'as mis à l'ISCO. Enfin, c'est dû à quoi, selon toi ? Comment il a réussi ce tour de force ?
Comment ils ont ? Parce qu'ils travaillent avec Sarah Lynn, maintenant Christophe Le Maire. Et je pense, je pense qu'un duo homme-femme, on le voit notamment aussi chez Prada, c'est-à-dire avec deux personnes de genres différents qui expérimentent le corps de la même manière, mais c'est la recette idéale.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on arrête de fantasmer. Il y en aura toujours l'un des deux pour calmer le fantasme que l'autre peut avoir sur le vêtement et du coup créer quelque chose de très portable avec un œil un peu amoureux ou fantasmagorique. Donc je pense que ça vient du duo, ça vient aussi du talent des deux et de cette esthétique qui est intemporelle mais qui a des formes. À chaque fois, les vêtements ont toujours un twist qui crée une forme jamais vue. Et c'est rare aujourd'hui d'être surpris, d'avoir une sensation de jamais vu dans la mode.
Ok. Quelle est ta vision, quelles sont tes perspectives pour le secteur, pour la mode de demain ?
Je pense que... Par exemple, les prix aux jeunes créateurs vont se développer.
D'accord.
Parce qu'il faut absolument maintenir le soutien aux jeunes créateurs. Mmh. Je pense qu'il faut aussi arrêter de fantasmer le défilé à outrance et qu'il faut que les marques comprennent que parfois, une présentation est juste une présentation du produit. Mmh. Ça peut faire sens et que le défilé, c'est un moment de communication tellement fort et tellement puissant que si on n'a pas vraiment quelque chose à dire, on peut montrer ses vêtements autrement. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit obligatoire.
Ok, très bien. Alors, dernière question. Quelle est la prochaine personne que tu aimerais recommander à ce micro ?
Ah tiens ! Oh là, mais il y en a plein. Allez, Serge Carrera.
D'accord. Très bien. Serge, si tu nous entends.
Bah oui, il va nous écouter.
Merci beaucoup, Saveria. C'est un plaisir de te recevoir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera à remonter dans les algorithmes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.